se reprenant. « Non, pense-t-il, bien sûr que non. Je ne l'aime pas. Elle est très bien, parfaite, si l'on veut. Je sais qu'elle est parfaite, c'est tout. Si je devais cesser de la voir, je ne m'en porterais que mieux. Après quelque temps. » La précision, pour tardive qu'elle fût, prouvait qu'il restait honnête, objectif. Est-on objectif lorsqu'on aime ? Convaincu de ne pas aimer Françoise, il se permet d'être honnête jusqu'au bout. Il déplore de ne pas l'aimer. Il s'avoue que l'amour serait le meilleur moyen de se libérer des 100 roueries complexes dont se rend esclave l'homme couvert de femmes, petits imbroglios qui, de loin, paraissent des sujets de vaudeville, mais qui, de près, ont l'épaisseur, le cheminement implacable, étouffant de la tragédie. Cette sagesse a précédé Françoise. De plus en plus souvent, lui, l'homme, aux 6000 heures de vol, le jeune ami de Mermoz, le compagnon de Rozanov, l'homme aux 1001 femmes couchées à vie dans sa mémoire sur des lits espagnols, italiens, français, russes et sur les sables du désert au bord d'une source chantante, il lui semblait qu'il n'avait pas vécu. Combien de fois a-t-il traversé les rires, la fraîcheur d'une soirée de printemps, sans ressentir la fraîcheur, sans entendre les rires, sans reconnaître le printemps. Parce qu'il allait retrouver une femme, parmi 100 autres, et que l'homme, qu'attend une femme, parmi 100 autres, est assez comparable au fonctionnaire qui, petitement, chaque jour, s'en va rejoindre son bureau. Jean rêve d'une femme qui serait la seule, s'il était capable d'aimer. Ou si les femmes n'étaient pas ce qu'elles sont. Se rappelant le désir de son adolescence qui le précipitait dans de folles aventures pour en émerger différent, il se demandait si ce désir-là n'avait pas été l'annonce de la soif plus exigeante qui le tourmentait aujourd'hui. Tout de suite, il se reproche de rêver. Cette nostalgie appartient aux vieux qui seuls ont le pouvoir de se rappeler loin parce qu'à partir d'un certain âge, les années intermédiaires entre l'enfance et la vieillesse laissent apparaître le vide où elles s'effondrent, pont dérisoire jeté entre deux infinis. Ne vit-il pas 30 ans avant elle comme maman, toujours enfermée dans le reliquaire de son passé, par la faute d'Irène peut-être? Ou de la guerre, ou de quoi. Il ne veut pas le savoir, il n'est ni vieux ni blasé. Les coureurs ne le sont pas, sans quoi ils cesseraient de courir. Refusant le retour à l'adolescence, le besoin inadmissible qu'il y porte, il se dit que Françoise pose un problème, et que c'est là tout ce qui l'attire en elle. Mais quel problème? La vie de Françoise n'a rien de mystérieux. Elle ouvre son magasin vers 10 heures, et le ferme à 7 heures du soir. Elle a peu de clients, mais des clients fidèles, proportionnellement beaucoup d'hommes. Deux fois, Jean l'a surprise avec des jeunes gens. Plus tard, il lui a dit « En somme, vous ne vous embêtez pas. » L'étonnement de Françoise lui a fait du bien, et quand, ayant compris ce qu'il voulait dire, elle lui a déclaré que ses visites de fils de famille étaient le côté le plus pénible de son métier, tout bêtement il l'a cru. À sa troisième visite à la boutique, lui qui ne remarque rien, il a remarqué le bureau, à droite de la porte, tout contre la vitrine. Un vase rose contenait de petites fleurs blanches. Elle lui a dit que c'était un cornet d'opaline et une branche de rose pompon. Il se souvient de ces mots. Il les avait trouvés jolis. Il se souvient des feuilles vertes, luisantes, tout au long de la branche, du maroquin à ferrures, du classeur plein de factures et de lettres, et derrière le classeur, de la bouteille de vernis à ongles cachée là. Il se souvient de tout, et tout l'émeut. Mais rien ne le trouble autant que le regard de Françoise lorsqu'il ouvre la porte et cette absurde idée qui lui vient chaque fois qu'il la revoit. Avec elle, ce ne serait pas pareil. D'ailleurs, elle est mariée, pense-t-il. Une bonne raison pour qu'elle ne se cramponne pas quand j'en aurai assez d'elle. Le cynisme, enfin, conjure l'envoûtement. Rasséréné par cette mise au point, le voilà qui, étend les bras, s'étire. Du coin de l'œil, maman l'a vu poser sa pipe sur la petite table, passer une main dans ses cheveux gris sur les tempes. Elle sourit et s'enchante de le surprendre heureux. Dans le rire un peu niais de l'homme satisfait de lui, elle aperçut en un éclair la blancheur des dents. « Quelle magnifique soirée, maman » dit-il. Rencontrant le regard de la vieille dame, il se demanda depuis combien de temps elle l'observait. « En quoi si magnifique, Jean ?» Il rit. « Je ne sais pas. Ce doit être le poisson. On s'entend bien, tous les deux. Tu ne trouves pas que je suis en forme ces jours-ci ?»« Mais oui, Jean, dit-elle d'une voix paisible, tu te portes bien. » Elle ne lui dira pas qu'il fait fausse route. Elle ne lui dira rien de ses craintes. Elle ne veut pas qu'il en vienne à détester sa mère à cause de cette femme, de peur, un jour, bientôt, de la haïr. Irène lui a suffi. Elle ne haïra plus. La haine fait trop de mal. Mais lorsqu'il dit « Pourquoi n'invites-tu plus cette jeune femme, Françoise Galard ?» C'est plus fort qu'elle. Le nom l'a frappée comme une gifle. Elle grimace tout à coup. « Françoise Galard, qui donc ? Ah oui, la jeune antiquaire s'est mijaurée. Tu ne vas pas me dire, Jean, qu'elle t'intéresse. Elle n'est même pas vraiment jolie. Voyons, maman. » « Bon, elle est jolie, si tu veux, mais tu en connais de plus belle, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?» répète maman. « Je ne sais pas, » dit Jean sincère. « Mon petit, » dit maman. Et sa voix tout à coup est pathétique, elle fait peur. « Mon petit, rappelle-toi ce que je te disais pour Irène. Tu ne voulais pas me croire, et puis enfin, tu as reconnu que j'avais raison. Les hommes ne connaissent pas les femmes, ils n'y entendent rien. Même toi, mon petit. » C'est à cela que servent les mamans. Alors ouvrir les yeux quand il n'est pas trop tard. Françoise Galard n'est pas une femme pour toi. Ce n'est une femme pour personne. Tu connais son mari ? Eh bien, je suis sûre, je suis certaine qu'elle ne le rend pas heureux. Parce qu'elle est incapable de rendre heureux un homme. « Je vais me coucher, » dit Jean, et il embrasse maman sur les joues. Le lendemain matin, il téléphona du terrain à Françoise. Une habitude déjà prise. Il ne leur suffisait pas de se voir tous les soirs, il fallait qu'ils se téléphonent dans la matinée, pour rien, pour échanger quelques paroles. « Comment allez-vous ? Et vous ? Avez-vous bien dormi ? Nous nous voyons ce soir, à tout à l'heure. » Ce matin-là, Françoise avait une voix triste au bout du fil. Elle devait lui demander de ne pas venir à la boutique. « C'est le repos de Michel. Il passera certainement me prendre et demain nous devons aller chez ses parents. Ce n'est pas que ça m'amuse, Jean. Je vous manquerai un peu ?» Muet, il pensait que sa mère, peut-être, avait vu juste lorsque, inquiète de son silence, Françoise l'appela. « Jean !» Il ne douta plus. Françoise n'était qu'une coquette, une allumeuse, les pires. la veille encore, il se demandait s'il n'allait pas se mettre à l'aimer. Incorrigible, pensa-t-il. Il s'insulta, idiot. Je suis vraiment désolé, ma chère amie, dit-il. Une période intensive, de travail intensif, va commencer pour moi. Nous serons plusieurs jours sans nous revoir. Ce fut à son tour de crier « Allô ?» parce qu'elle ne répondait pas. « Allô, Françoise ?» Aussitôt, il se repentit d'avoir crié. Il fallait mettre un terme à cette comédie. Il était temps d'en finir. D'autant plus que le mois prochain, je dois aller à Istres et que je resterai là-bas sans doute plusieurs semaines. Françoise, vous m'entendez ?
J'entends. C'est presque un adieu, en somme. Un adieu téléphonique.
Il crut qu'elle allait pleurer, mais d'une voix soudain calme et sèche, « Amusez-vous bien, » dit-elle, et elle raccrocha. Jean, cette fois, tint bon 5 jours. Il aurait tenu plus longtemps s'il n'avait commis la faute, pour s'assurer de tenir, d'accepter la relance d'une certaine Madame V, Micheline, femme d'un docteur de Paris, entreaperçue dans un bar quelques jours avant la rencontre de Françoise. Minaudante et plaisantine, cette assez jolie personne de 36 ou 38 ans, mère d'une fille bonne à marier, qui en avouait 32 et en paraissait 29, n'était pas exempte de ces qualités que Jean prisait chez une femme, au premier rang desquelles le refus d'une quelconque prise au sérieux. Mariée à un homme très riche et très âgé, qui lui passait tous ses caprices et ne contentait aucun de ses besoins, elle avait des excuses et ne s'en cherchait pas. Elle préférait, disait-elle, chez un homme, l'expérience à la jeunesse, à condition qu'il ne fût pas trop vieux, l'intelligence à la beauté, à condition qu'il fût beau. Elle avait, pendant la dernière quinzaine, tenté à 3 reprises de joindre Jean, 2 fois l'avait manqué, et la 3e essuyait avec le sourire une rebuffade sans équivoque. Elle paraissait savoir ce qu'elle voulait, en d'autres temps une raison suffisante pour que Jean s'en méfiât. Mais lui-même, un instant, il a souhaité la connaître mieux, parce qu'elle ne s'enivrait pas de grands mots passionnés, calmement suggérait une aventure. Elle retéléphona pour la dernière fois peut-être, le lendemain du jour où Jean avait rayé Françoise de sa vie. Il ne voulait pas être seul ou ne le pouvait pas, il lui donna un rendez-vous, il y vint. Il ne désirait pas être brillant, elle s'en dit enchantée car elle détestait le flirt. Il se voulut un peu mufle, elle adorait qu'on la rudoie. Il se demandait encore ce qu'il allait faire d'elle quand elle lui offrit une place dans sa vedette et fila vers Paris. Ils étaient place de la Concorde 1 heure plus tard. Elle rangea sa voiture derrière la Madeleine, où elle connaissait un hôtel de luxe, pour dame seule, qui désirait ne plus l'être. Le personnel l'estimait à cause de ses pourboires. Elle traversa en reine le hall aux décorations lourdes, de mauvais goût, exigea la chambre habituelle. Lorsqu'il eut satisfait la dame, Jean lui demanda si ce genre de vie ne la dégoûtait pas un peu. C'était la première fois qu'il posait une telle question à une femme. Tendre, soudain, elle avoua que c'était une existence atroce, mais qu'aucune autre vie ne lui serait permise aussi longtemps qu'elle n'aurait pas rencontré le grand amour. Jean lui jura qu'il était temps pour elle d'y penser, puis il se fit reconduire à Melun. moins écœuré que surpris de son écœurement, il écoutait d'une oreille distraite les questions de la dame et n'y répondait pas. Il essayait de dénombrer les femmes pareilles à celles-là qu'il avait prises. Elles étaient trop, il y renonça. Il se donnait l'impression de sonner le creux. Depuis combien d'années n'avait-il ni vraiment pensé, ni vraiment vécu? Voici de la technique, de l'habileté, de l'expérience. Et puis, voici ce cœur qui ne bat pas pour vous. Il était malade d'absence. Mais Françoise existe, pensa-t-il. La pensée de Françoise ne le consolait pas plus qu'un affamé sans le sou, la vision de nourriture inaccessible contemplée à la vitrine d'un magasin. Elle lui demanda quand il se reverrait. Il dit « après-demain », sans savoir pourquoi. Mais le surlendemain, quand elle l'appela pour confirmer le rendez-vous, il effectuait un vol d'essai. Elle essaya de nouveau le jour suivant. La ligne était occupée. Jean téléphonait à Françoise. Michou a inventé un nouveau jeu. Le « je ne sais pas ». C'est par réaction avouée contre l'omniscience des professeurs qui savent tout, qui explique tout, c'est leur droit, mais qui aussi exige qu'on sache tout, qu'on explique tout comme eux. L'idée du jeu lui est venue alors qu'il séchait sur une composition d'histoire. Pour quelle raison Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée? Il écrivit sur son brouillon « On ne sait pas, peut-être pour qu'elle devienne une sainte ». Puis, se corrigeant, elle a été brûlée parce qu'elle est devenue une sainte. Il riait en contemplant la phrase écrite. C'était d'un effet extraordinaire. Le professeur lui demanda pourquoi il riait et, parce que Michou ne répondait pas, il lui infligea un avertissement. « J'ai ri, » pensa Michou, rebelle, « parce qu'il allait me donner un avertissement. » Et malgré la sévérité de la punition, un certain nombre d'avertissements peuvent faire chasser un élève du lycée, il se sentit tout apaisé, presque heureux. Le jeu était inventé, mais Michou ne savait pas combien il allait bouleverser sa vie. La seule conséquence immédiate qu'il en tira, ce fut une mauvaise composition d'histoire. Dans le cours de l'après-midi, cependant, en introduction à l'étude des fables de La Fontaine, au programme du troisième trimestre en 5e A, le professeur de français lui parla de la vie d'Ésope. Michou feuilletait le livre quand ce récit l'arrêta. Ésope rencontra en chemin le magistrat qui lui demanda où il allait. Soit qu'Ésope fût distrait ou pour une autre raison, il répondit qu'il n'en savait rien. Le magistrat, tenant à mépris et irrévérence cette réponse, le fit mener en prison. Comme les huissiers le conduisaient, « Ne voyez-vous pas, dit-il, que j'ai très bien répondu? Savais-je qu'on me ferait aller où je vais ?» Michou de nouveau éclata de rire et à nouveau mérita une admonestation. Heureusement, le prof de français était moins sévère que le prof d'histoire. Deux avertissements dans la même journée, c'eût été beaucoup. Mais plus que jamais, Michou fut convaincu qu'on ne sait rien et que ceux qui prétendent tout savoir sont des menteurs. En outre, la coïncidence de cette lecture et de son état d'esprit lui parut digne d'être noté. Il se demanda pourquoi tout le monde vivait comme si ces choses-là n'existaient pas. Il ne put se retenir d'en parler le soir même à maman qui n'y comprit rien, sinon qu'il avait été puni deux fois en classe. Elle dit
qu'il n'irait pas au cinéma le dimanche suivant. Les larmes aux yeux, mais s'interdisant de pleurer, Michou répondit qu'il s'en fichait bien. Un gros mensonge. Le privé de cinéma, c'est le privé de la vie, de cette merveilleuse irruption de vie dans la conscience, dont rien, ni les livres écrits, ni la vie même, n'offre un équivalent. Le privé du chaud redéploiement sous la protection obscure de la salle, différente des autres nuits, nuits où l'on peut choisir son rêve. Pourquoi est-elle comme ça ? Pensait-il en regardant maman. Il se répondit sans surprise. Parce qu'elle va bientôt mourir. Tout à coup, il la vit avec des yeux nouveaux, perspicaces et cruels. Michou n'a jamais vu mourir personne. Dans ses cauchemars, la mort n'a pas de visage. Elle n'a que cet écho, depuis un certain meeting, vieux de 3 ans déjà, d'une foule assemblée, le hurlement qui monte à la rencontre d'un appareil en flamme à chaque instant plus visible. Michou croyait que son père le pilotait. Il croyait dans ce temps-là que son père pilotait tous les avions du monde. La mort, l'amour, des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Il s'étonna de penser à l'amour. Ce devait être à cause de la dame. Il essaya d'appliquer à la dame le mot de passe qu'il avait trouvé. Elle m'embête parce qu'elle aura... Mais il ne savait pas ce qu'elle aurait, ce qu'elle n'aurait pas, ce qu'elle serait, ce qu'elle ne serait pas, la dame, un grand trou noir. S'il éprouve le sentiment d'approcher une chose interdite, sa première réaction est la peur. Pour se punir d'avoir eu peur, il se contraint à pénétrer plus avant dans l'inconnu. « Ah ! Et ne boude pas, n'est-ce pas, Michou ?» dit maman. Michou haussa les épaules. À ce moment précis, il pensait que les plaisanteries obscènes des camarades devaient donner de l'amour une idée imparfaite. De même, la mort n'est pas seulement un corbillard rencontré dans la rue et que suivent en silence un tas de gens ennuyés.